Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le Bitcoin est-il une monnaie comme les autres ? Le Bitcoin est une monnaie virtuelle qui circule sur Internet.
Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées.
Il remplit les mêmes fonctions qu'une monnaie traditionnelle. Il représente une unité de compte.
Alors, on doit combien ? 1574 euros. Oh putain ! Putain, on a bien bouffé, hein ? Voilà, on s'est fait niquer par l'euro, c'est peut-être ça.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour Martial You.
Bonjour à tous les deux.
Soyez bienvenus.
Bienvenue oui, au sein de la curiosité. Vous êtes le chef du service économie d'RTL cet après-midi. Vous avez une mission, donc, rendre simple et compréhensible cette histoire de Bitcoin. Alors, nous, on pose les questions les plus simples possibles. C'est quoi le Bitcoin ?
Alors, c'est un bon début. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est mythologique, quoi. C'est Game of Thrones. C'est,
ah oui
ah ben oui.
Bien donc, on va rien comprendre, alors.
Non.
Game of Thrones, c'est génial, mais on comprend rien.
Parce que, oui, c'est pas faux. Donc, ça va peut-être être un peu comme ça. Ça va peut-être être un peu cet esprit-là. Non, en fait, parce qu'au départ, le fondateur du Bitcoin est une espèce de légende dans le monde de l'informatique, des ordinateurs, de la finance. Il s'appelle Satoshi Nakamoto. Il n'y a qu'une seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'existe pas.
Ah,
pour le reste,
bien.
On ne sait pas qui se cache derrière ce nom. La seule chose qui est sûre, c'est que c'est lui qui invente le Bitcoin, crée un peu sa légende autour de cette monnaie. Bitcoin, ça veut dire quoi ? C'est un bout de monnaie, hein, c'est bit. Alors, il y a un jeu de mots en anglais, puisque, et je reste très correct, hein, bit, c'est à la fois ce qui permet de mesurer l'informatique,
ouais.
C'est les fameux mégabits dont on entend souvent parler, ouais. Et puis bit, c'est le petit bout, donc le petit bout de monnaie.
Donc c'est une monnaie virtuelle, ça veut dire que pour être clair et redondante, peut-être, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de chéquier. On la manipule, cette monnaie, sur Internet.
Oui, alors elle a été créée en 2008-2009 et c'est pas un hasard parce qu'on est au cœur de la crise financière et en fait cette monnaie virtuelle, ce qu'on appelle, alors ça fait toujours très peur, une crypto-monnaie, cette monnaie virtuelle, elle se crée au moment où on ne fait plus confiance aux banques, on ne fait plus confiance aux États et on ne fait plus confiance aux monnaies. Et donc, pour essayer de comprendre, c'est un petit peu le retour du troc et du monopoly mélangé, quoi. C'est-à-dire qu'autrefois, dans l'histoire, évidemment, il y avait le troc, on échangeait des produits contre d'autres, contre des services, où on échangeait ensuite des pierres d'or contre des biens et des valeurs marchandes. Bon, bah, là, c'est un peu ce qui se passe, mais de façon virtuelle. C'est-à-dire qu'on va estimer que ce Bitcoin n'a une valeur que parce que vous, Sidonie, ou vous, Thomas, vous êtes d'accord avec moi pour lui en donner.
Comme ça repose sur la confiance, en fait.
Oui, mais c'est le billet de Monopoly, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on y croit tous parce qu'on va tous jouer ensemble et on va se dire, bah voilà, ce bout de papier, là, photocopié, il vaut 500... Rien, 500 bon, bitcoins.
Moi, j'aimerais bien avoir un bitcoin, en avoir un dans mon porte-monnaie virtuel. Mm-hmm. Je fais comment ? Je demande à qui ?
Alors, il y a des plateformes qui vendent des bitcoins. Il y a de plus en plus aussi, même d'organismes financiers qui ont des filiales qui vous proposent d'acheter des bitcoins. Alors, si on fait simple, vous allez notamment dans le 2e arrondissement à Paris, vous avez des magasins qui vous offrent la possibilité, comme des bureaux de change, d'acheter des bitcoins. Donc, vous arrivez avec votre argent, vous dites, voilà, je vais mettre 100 euros. 1000 euros et on va vous les convertir en bitcoin.
Alors j'ai combien pour 100 euros ? Je veux bien mettre 100 euros, je fais un effort. Pour 100 euros, j'ai combien de bitcoin ?
Alors là, vous allez être un peu déçu, j'ai pas sorti ma calculatrice, mais pour qu'on se rende compte, aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut 18 000 dollars.
Ah oui.
Un peu moins depuis cette nuit parce qu'il y a eu un mini crack du bitcoin. Si vous voulez, on en reparlera.
Oui,
donc en gros, on est entre 18 000 et 16 000. Pour vous donner une idée du côté complètement faramineux de ce qui se passe autour du Bitcoin depuis quelques mois, ce même Bitcoin, si vous l'aviez acheté il y a un an, enfin le 1er janvier 2017, il valait 1000 dollars. Donc en un an, on a fait fois 16, 17, 18.
Donc il y a une inflation de dingue. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que le Bitcoin vient d'entrer en bourse il y a quelques jours et ça pose beaucoup de questions à venir sur RTL. Restez avec nous.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
RTL.
La musique sur RTL, c'est ça. Des tubes. RTL.
Et des standards.
Et tous les week-ends, du live.
On aime la musique sur RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une aventure à la Game of Thrones, cette série qui cartonne dans le monde entier. Et c'est une monnaie virtuelle qui vient de faire son entrée en bourse. Le Bitcoin va-t-il vraiment révolutionner notre quotidien? C'est ce qu'on demande à notre chef du service économique d'RTL, économie d'RTL, Marcel Liu. Donc le Bitcoin vient de faire son entrée en bourse, c'était le 10 décembre à Chicago. Pourquoi c'est une étape importante?
C'est une étape importante parce que ça légitime quelque part le Bitcoin et ça l'encadre aussi un tout petit peu. Parce que c'est le Far West quand même depuis le début, le Bitcoin. Il n'y a pas véritablement de règles et tout repose sur la confiance de ceux qui échangent des Bitcoins entre eux. Et très très rapidement, on s'est rendu compte que ceux qui échangeaient des Bitcoins entre eux, c'était soit des chasseurs de primes, soit des dealers de drogue. Enfin bon, donc il y a quand même un peu de ménage à faire.
Parce que ça naît dans une économie un peu parallèle, c'est ça
ce qu'on appelle le Darknet. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Darknet et la blockchain. Alors, je vais essayer de prendre 30 secondes pour expliquer.
C'est le moment le plus compliqué de l'explication.
J'essaie de me concentrer, effectivement, pour expliquer tout ça. Le Darknet, c'est un web parallèle. C'est-à-dire que tout le monde connaît le web sur lequel on fait ses recherches, on va sur Google ou autre. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. À côté de ça, vous avez le même système qui est un système caché où vous y entrez. Si vous avez lu Millennium, la saga, vous avez l'héroïne qui rentre sur ce Darknet.
Avec des codes, il faut bien maîtriser Internet.
Avec une communauté qui est à la fois une communauté de gens qui font le bien et de gens qui font le mal. Mmh. Mais aucun jugement de valeur. Et donc c'est un net à côté. Et toutes ces transactions autour du Bitcoin, tout cet argent qui s'échange et qui n'existe pas encore, je le dis encore une fois, cet argent n'existe pas, il est virtuel, il n'existe que parce qu'on veut bien y croire. C'est comme le Père Noël. J'ai rien dit sur le Père Noël encore. Mais donc voilà. Donc cet argent qui n'existe pas, il est échangé et il est validé, ce qui permet de dire que cette transaction entre Sidonie, si je vous achète votre pull, et moi...
Ce serait une très bonne idée.
Il vous irait très bien, Marcel.
Je pense, effectivement.
Ouais. Cette
transaction-là, elle est validée par ce qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain, c'est tout simplement... C'est toute une série d'opérations qui ont lieu en même temps et qui sont sécurisées par des dizaines et des milliers d'ordinateurs dans le monde. C'est-à-dire que vous avez des petits bouts d'ordinateurs qui sont en train de valider l'historique et qui disent oui, Marcel Liu, il a des bitcoins et on peut lui faire confiance dans cette transaction, dans le fait d'acheter ce pull.
Mais vous dites que ça n'existe pas, le bitcoin. Alors quelle folie d'aller placer son argent ou d'aller acheter des bitcoins. Pourquoi on ferait ça? À quoi ça sert?
Et c'est en ça que je reviens sur l'importance de Chicago et de la bourse, c'est que finalement, petit à petit, se crée une économie autour du bitcoin et donc lui donne une existence réelle. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez notamment dans le 2e arrondissement à Paris, parce que c'est le quartier de la bourse, historique aussi, mais c'est celui aujourd'hui des startups, vous avez ce qu'on appelle un boulevard du bitcoin, une série de magasins qui acceptent des transactions en bitcoin et où vous pouvez acheter des vraies choses, de la vraie vie et du vrai commerce.
Mais ça, c'est encore rarissime. En France, il y en a quelques dizaines de magasins qui acceptent
200,
ça.
Et même pas 200 qui acceptent ça. Non. C'est encore un truc très, très...
Mais on paye comment? Il y a une carte à Bitcoin?
Il y a des applis. C'est par le biais de votre téléphone. Vous avez le commerçant qui a une appli qui s'appelle BitPlay, je crois, de mémoire. Vous échangez. Lui, il vous fait la transaction. Il vous dit, je vous vends le pull. Je reste sur mon image, comme ça, on tient la métaphore. Je vous vends le pull. J'estime qu'il vaut tant de Bitcoin. Et vous, avec votre téléphone, vous validez l'opération avec votre compte à Bitcoin.
Est-ce que ça permet de faire des économies? Est-ce qu'on évite un certain nombre de frais avec cette monnaie virtuelle?
Oui, bien sûr, on évite un certain nombre de frais parce que l'intérêt de cette monnaie, c'est qu'elle ne repose sur aucune banque centrale, aucun État. C'est une monnaie apatride et donc vous n'avez pas toutes les opérations de banque traditionnelles et les frais bancaires qui sont prélevés lorsque vous faites des opérations ou lorsque vous avez un compte. Tout ça n'existe pas. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est un peu compliqué de dire est-ce qu'on fait des économies. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que vaut réellement le Bitcoin. Donc on ne sait pas, par voie de conséquence, ce que vaut le pull que je viens d'acheter. Parce qu'aujourd'hui, si je l'achète 0,03 Bitcoin, il a une valeur qui, je ne sais pas...
Vous ramenez ça en euros, on peut quand même comparer au prix du marché.
300 euros, par exemple, mais demain, si ça se trouve...
C'est cher pour un pull, vous ne faites pas avoir, Marcel Liu.
Oui, mais comme c'est virtuel...
On n'achète pas des pulls à ce prix-là.
Ce que je veux dire, c'est que et demain, cette valeur du pull n'aura plus le même prix, puisque le cours aura évolué. Est-ce que je suis clair?
C'est très clair.
C'est très clair. On a encore plein d'autres questions à vous poser. La curiosité continue sur RTL avec cette question. Le Bitcoin peut-il devenir une nouvelle monnaie mondiale?
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
On peut, par exemple, déterminer qu'une paire de chaussettes vaut 2 bitcoins.
Et des chaussettes rouges et jaunes, un petit point.
Il facilite les échanges. On peut l'utiliser pour acheter des biens et des services.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Il peut être stocké pour être utilisé dans le futur.
Parti! Il faut que tu repartes avec moi.
Ça?
Et vers le futur!
Bitcoin peut être qualifié de monnaie, au même titre que l'euro, par exemple. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je ne crois pas que les tontons flingueurs se payaient leur gnôle avec des bitcoins, mais en tout cas, voilà une mise en onde qui nous met en joie. Elle est signée André Facetta, notre réalisateur. On est avec Martial You, le chef du service économie de RTL, et on décrypte, c'est le cas de le dire, le bitcoin, cette monnaie virtuelle.
Et on comprend.
Créé il y a bientôt 10 ans et qui vient d'entrer en bourse à Chicago et effectivement
et dans notre
Martial,
cerveau
on comprend, vous nous l'avez dit, c'est une monnaie qui ne dépend pas d'un état qui est donc une
pas
monnaie transnationale, il n'y a pas de banque centrale. Peut-être on peut revenir quand même sur la sécurité des transactions, parce que ça reste une monnaie qui a mauvaise réputation. Pourquoi ?
Ben, tout simplement parce que avec le Bitcoin, vous pouvez acheter effectivement un pull, des chaussettes, on vient de l'entendre tout à l'heure, ou encore des armes, de la drogue. Et c'est d'ailleurs ce qui avait fait parler du Bitcoin il y a quelques années de cela, c'est quand le FBI avait arrêté celui qui avait ce qu'on avait appelé inventé le eBay de la drogue. Il s'appelle Ross William Ulbricht. Il a été arrêté le 1er octobre 2013. C'était le Pablo Escobar du Bitcoin, si vous voulez. C'est-à-dire que lui, il avait inventé une plateforme où ceux qui voulaient acheter de la drogue pouvaient payer en Bitcoin, faire monter les enchères pour un stock de drogue qu'on leur livrait ensuite. Mais cet argent, c'était une blanchisserie formidable grâce au Bitcoin, puisqu'il n'y avait plus aucun argent physique qui circulait. Et ensuite, évidemment, il fallait que ces Bitcoins, ce stock de Bitcoin, soit réutilisé, réinjecté dans l'économie réelle en achetant des voitures, des biens, des maisons. Vous voyez, ils étaient passés par la case Bitcoin pour pouvoir blanchir tout l'argent de la drogue, notamment.
Et on était sur ce darknet dont vous parliez tout à l'heure. On comprend bien, parce que ça, c'est ce dont vous nous parlez là, c'est peut-être la première fois que le grand public, en tout cas dans la presse, entend parler de cette monnaie virtuelle. Donc, très mauvaise réputation. On redit comment c'est garanti par la blockchain. C'est quoi? C'est la date de la transaction très précise
en réalité,
qui est
blockchain, ça garantit l'historique d'une opération. Mmh. C'est-à-dire que là, on est 5 autour de la table. Si on fait une transaction entre 2 d'entre nous, les 3 autres sont témoins par leur ordinateur de cette opération et la valide. Et puis ensuite, on est 5. Si l'un d'entre nous fait une opération avec quelqu'un d'autre, vous aurez 5 fois 5 ordinateurs qui valideront l'opération. Donc vous voyez bien que très vite, ça devient exponentiel et que vous avez un historique qui est impossible à retracer à une seule personne. L'idée de la blockchain, c'est de créer une espèce de constellation ou de toile d'araignée qui valide l'historique de chacune des opérations, mais aucun ordinateur n'a l'intégralité de cet historique. Ce qui fait que vous ne pouvez pas remonter, vous ne pouvez pas craquer les opérations. Mmh. Mais elles sont validées par la confiance de l'ensemble des membres qui sont au sein de cette blockchain. Et c'est pour ça que lorsque vous échangez des bitcoins, théoriquement, l'opération est garantie, assurée par ce système de protection.
Alors le bitcoin deviendra peut-être une grande monnaie mondiale. En tout cas, il y a un bémol à son développement, c'est son impact écologique. Comment une monnaie virtuelle peut polluer la planète?
Ben, c'est la suite de ce que je vous disais, c'est le raisonnement poussé à son extrême, c'est-à-dire que pour valider ces opérations, vous avez la nécessité d'avoir des milliers d'ordinateurs avec des capacités de calcul gigantesques qui tournent pendant des heures, 24 heures sur 24. Et vous avez même, notamment en Chine, ce qu'on appelle des fermes à Bitcoin, c'est-à-dire des immeubles entiers, des data centers qui ne sont là que pour valider les opérations qui ont cours sur les Bitcoins.
Et ça pollue, évidemment.
Ah bah ça consomme énormément d'énergie, ça crée de la chaleur, parce que on le sait, ces data centers créent un réchauffement climatique lorsqu'ils sont concentrés au même endroit.
Est-ce que le Bitcoin crée des emplois?
Alors, le Bitcoin crée des emplois, c'est-à-dire que par rapport à ce qui, par rapport à son origine, oui, il y en a qui aujourd'hui non seulement travaillent pour des organismes qui font des certifications de Bitcoin, il y a des bourses qui existent, il y a des magasins qui existent, donc oui, il y a aujourd'hui des emplois directement liés au Bitcoin.
Et Martial, on se posait la question de cette ambition des promoteurs du Bitcoin, est-ce que ça va devenir la monnaie mondiale? Ça vous semble possible, ça ?
C'est déjà la monnaie mondiale, puisqu'elle est agnostique, quelque part. Elle n'a pas de pays de référence. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le plus gros détenteur de Bitcoin au monde s'appelle l'État fédéral américain. Donc, ça veut dire que quand même, il y a une petite main qui est gardée par les États sur ces Bitcoins. Et puis après, vous avez beaucoup en Asie de propriétaires de Bitcoin. Mais effectivement, c'est le même Bitcoin que vous soyez en Chine, à Pékin ou à San Francisco.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va penser à l'or comme une valeur refuge qui garantit la monnaie. Est-ce qu'on peut être dans la même mécanique ?
C'est compliqué pour une raison simple. C'est que ce Bitcoin, il ne s'assoit sur aucun stock d'or physique, ce qui est le cas habituellement de l'argent classique qu'on connaît. Il ne s'assoit sur aucune économie d'un pays, ce qui est le cas du dollar, évidemment, adossé aux États-Unis, ni l'euro qui est adossé à la zone euro. Mm-hmm. Pour vous donner un tout petit ordre d'idée, il y a une date charnière dans l'historique des bitcoins, c'est le 22 mai. Le 22 mai 2010 a eu lieu la première opération, le premier achat en bitcoin au monde. C'était un ingénieur informatique, Laszlo Aniek, qui l'avait fait. Il a acheté 2 pizzas en bitcoin ce jour-là. Il les a payés 10 000 bitcoins, ces 2 pizzas. Ça voulait dire que à l'époque, ces 10 000 bitcoins valaient 50 euros à peu près.
Ça fait cher la pizza.
Ça fait cher la pizza. Aujourd'hui, si l'on transférait la même chose, c'est l'équivalent, ces pizzas lui coûteraient à peu près 180 millions d'euros. Vous voyez, si on fait le transfert. Ouais. Donc tout ça.
C'est bête, il les a mangés.
Oui, c'est bête. Et lui, il n'a pas voulu les garder, ces bitcoins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient compliqué d'en faire une monnaie de référence, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop spéculative.
Allez, on a encore une petite question à vous poser. Est-ce qu'on peut, dans un avenir plus ou moins proche, imaginer que ça va devenir une monnaie physique, avoir des billets
sonnante
ou des pièces
et trébuchante
en bitcoin? À tout de suite, les curieux.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
Des tontons flingueurs choisis par André Facetta. Nous continuons cette émission de radiophonie sur RTL, première radio de France. C'est l'histoire du Bitcoin que l'on découvre sur RTL, mais non, on est très moderne avec Martial You, chef du service économie de RTL, alors que cette monnaie virtuelle vient d'être pour la première fois introduite en bourse à Chicago. On se demandait, donc on a bien compris que c'était une monnaie virtuelle qui reposait sur la confiance des utilisateurs des uns et des autres, encadrée par la bourse aujourd'hui, et cette fameuse blockchain qui assure l'historique et les transactions. Mais est-ce qu'un jour, on peut espérer avoir quand même des bitcoins entre les mains? Alors, pour le plaisir d'avoir des monnaies sonnantes et trébuchantes?
Je ne pense pas, parce que ce serait d'abord contraire à la philosophie même des bitcoins. C'est une monnaie qui s'est créée justement pour être virtuelle.
Ça coûterait trop cher.
Ça ne coûterait pas forcément trop cher, mais comme elle est assise sur aucune économie réelle, ce serait difficile d'en faire une monnaie réelle. Et puis ensuite, il y a une réalité toute bête, c'est qu'aujourd'hui, même en France, vous avez moins de 50% des transactions financières qui se font en monnaie cash réelle. La plupart de ce qu'on achète ou de ce qu'on a comme transaction financière se fait de façon virtuelle déjà. Donc on est déjà dans un monde qui virtualise énormément la monnaie. Donc a priori, il n'y a pas de raison. Dernière chose qu'on n'a pas dite sur le Bitcoin, mais en plus, c'est une monnaie qui ne peut être que spéculative parce que vous avez une barre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y aura eu 21 millions de Bitcoin mis en circulation, on est à 17 millions aujourd'hui, vous n'en aurez plus de créé.
Mais qui c'est qui a décidé ça?
Ah bah les fondateurs. Fondateurs à l'origine de ce Bitcoin. Donc ça veut dire que obligatoirement...
Ça explique l'inflation dont vous parliez tout à l'heure.
Ça ne peut être qu'inflationniste. Et vous avez maintenant des gens qui achètent des petites parties de Bitcoin, des centimes de Bitcoin, parce que ça devient cher à acquérir.
Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de faire leurs achats de Noël en Bitcoin?
Non, pas franchement. En revanche, si vraiment on veut offrir des Bitcoins, là c'est une très très bonne idée. Mais il faut une carte de Bitcoin. Vous voyez, si vous m'offrez un ou deux Bitcoins,
vous serez content, vu le cours que vous nous avez annoncé. Merci beaucoup, Martial You. Bon, mission remplie.
Vous êtes un héros.
Franchement, vous êtes notre James Bond. Parce que franchement, c'était pas simple. On vous retrouve évidemment dans tous les journaux de la rédaction.
À très vite au micro de la curiosité.
Vous écoutez RTL.